Ravie d'être avec vous, vous êtes bien à l'écoute de Clap et on parle maintenant des sorties de la semaine. Alors préparez votre plus beau sourire et votre passeport pour un voyage en famille inattendu. On parlera aussi d'une légende viking, une histoire de violence spectaculaire avant de terminer par deux histoires vraies, une comédie fermière et une autre totalement différente, le portrait anxiogène d'un tueur. Et pour en parler autour de cette table, ils sont là depuis le début de l'émission, Victor Bonnefoy et Franck Vallière.
Bonjour, bonjour.
Les garçons, bonjour, bonjour, rebonjour, bonjour. Je vous fais pas l'affront de vous demander qui est leader du box-office ?
Ne serait-ce pas un film avec une cape et des super-héros ?
Évidemment, vous le savez.
Ah oui, Doctor Strange.
Ouais, raz-de-marée pour Doctor Strange qui en seulement 7 jours a attiré 1 438 000 spectateurs, donc immense succès pour le film
de Sam Raimi.
Ouais, c'est assez énorme. Et fatalement, la concurrence est relayée loin derrière avec à la deuxième place...
Oh là là, alors ça c'est une très bonne question. Est-ce que c'est un film d'animation ?
Oui.
Oh,
non, c'est pas un film.
Oh là, non, je ne sais pas du coup.
Les Animaux Fantastiques.
Ah
c'est
oui,
pas
bah non, c'est pas
d'animation, mais il y a beaucoup de...
Oui, mais c'est gros blockbuster américain.
C'est pas un film d'animation, oui. Un peu moins de 200 000 entrées cette semaine, un cumul de 2 400 000 entrées
où
en un mois.
Où sont les cinéphiles ? Ils sont plus en salle, hein. Il n'y a plus que les jeunes qui y vont en gros, quoi.
Hein alors j'allais dire en troisième position, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?
Où sont les cinéphiles ?
Qui a fait rire 132 000 spectateurs supplémentaires, donc 2 100 000 à peu près en 5 semaines. Je vous arrondis tout ça.
Hein. Oh, oui,
et puis enfin, un petit
plus,
mot...
Je vous le mets quand même.
C'est vraiment ça, tu vois.
Un petit mot sur Ténor avec Michel Larocque, MB14, que nous recevions il y a 2 semaines, qui échoue au pied du podium avec 126 000 entrées, 348 et des poussières. Bref, on parle des films à voir ce week-end au cinéma. On recevait Pascal Arbillot la semaine dernière pour parler d'un premier long métrage de François Uzan. On sourit pour la photo. Pour rappel, l'histoire d'un couple au bord de la rupture. Jacques Gamblin, le problème, c'est qu'il est obsédé par ses albums de photos. Il trie ses photos de famille. Il en oublie sa femme et ses enfants. Jusqu'au jour où Pascal Arbillot, qui joue sa femme, décide de le quitter et lui propose à sa famille de revivre Grèce 1998.
Les enfants, réglez vos montres, on est en 98. Allez, photo, photo.
Sympa les vacances en camion poubelle.
Les mêmes vacances qu'il y a 20 ans.
Top chrono.
La même magie.
Moi, ça me dérange de leur mentir. On a décidé qu'on se séparait. Mais là, on joue la comédie de la famille unie, c'est ridicule.
Ma femme me quitte. Les enfants pensent que je suis un vieux con. C'est un sans-faute.
Franck ?
Uzan s'est très inspiré de sa vie personnelle. Attention, pas tout, hein, bien sûr. Mais ce qu'il y a de très touchant, en fait, dans ce film-là, c'est que sous prétexte d'une comédie, on va dire, traditionnelle, en fait, le film est bien plus psychologisant qu'il n'en a l'air. C'est-à-dire que ça traite de sujets extrêmement sérieux. Un souvenir est-il fait pour être recréé ? Doit-on courir après le passé ? Faut-il divorcer, accessoirement aussi, mais bon.
On écoute vos réactions, on sent le vécu.
C'était un bon film qui m'a plu.
J'ai bien aimé, c'est un bon moment de détente. Moi j'aime beaucoup voyager donc il n'y a pas de souci, oui.
Très sympathique, ça change complètement les idées. Et je suis un peu de la même génération, Gamblin tout ça. Ça fait des souvenirs d'une époque, ça fait beaucoup de bien.
Et on continue avec The Northman, un film de Robert Eggers. Je sais que Victor...
Je trépigne.
Est-ce que tu veux nous faire le pitch alors ?
Alors, The Northman, c'est l'histoire... Non, mais le pitch est très simple. C'est une quête de vengeance. Un enfant a vu son père se faire assassiner et sa mère enlevée.
Le jeune prince Hamlet.
Exactement, il s'appelle Hamlet dans les pays nordiques, c'est vraiment viking. 20 ans plus tard, il décide enfin d'appliquer sa vengeance. Lui, devenu guerrier berserk, il rentre dans un convoi d'esclaves qui se dirige vers l'assassin de son père en disant « Ça y est, je vais enfin me venger. »
Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai.
Pourquoi t'enfuir vers cette contrée infernale ?
Pour retrouver ce qu'on m'a volé.
Qu'est-ce que c'est ?
Le royaume. Nous accomplirons la vengeance dont j'ai fait le serment.
J'adore.
Bah oui, moi aussi j'adore le film. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le troisième film de Robert Eggers qui avait déjà fait The Witch et The Lighthouse. Et c'est vraiment son film le plus accessible, je pense, parce qu'il a une trame très simple, à savoir cette quête de vengeance. Mais en fait, c'est bien plus riche que ça en a l'air, puisque derrière justement tous ces aspects-là, bah déjà il se permet d'assumer une époque qui est extrêmement cruelle, avec un premier degré dans la violence. Alors n'y allez pas avec vos enfants, c'est vraiment extrêmement radical à ce niveau-là, extrêmement cruel. Mais en même temps, il y a encore tout ce côté ésotérique. On a Björk qui vient jouer une sorcière au milieu et qui va nous donner justement des prophéties. Et c'est là tout l'intérêt du film. C'est un film film qui questionne le destin et qui pose la question de est-ce que tout est tracé comme dans le cinéma, est-ce que tout devrait être tracé, et qui vient continuellement déjouer nos attentes, qui vient continuellement nous surprendre dans la dernière partie. Et je trouve ça assez brillant ce que fait Robert Eggers et la manière dont il développe son cinéma de film en film.
Avec Alexander Skarsgård.
Tout à fait. Génial.
Et puis avec casting,
William Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke.
Il y a quelqu'un en plastique qui ressemble à Nicole Kidman.
Bon, ça fait 20 ans que c'est ça.
Allez,
la pauvre.
Franck, non, un mot sur le film.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Victor, sur ce réalisateur est absolument extraordinaire. J'aimerais qu'il ait 20 ans de plus pour assumer une maturité en termes de cinématographie un tout petit peu plus avancée. Certes, il est bloqué par un casting tellement maus qu'il faut, délivrer quelque chose qui soit recevable du plus grand nombre. Mais par exemple... je n'ai pas du tout marché à l'iconographie des Valkyries, mais peu importe. Je trouve que son rendu est très joli. Malheureusement, l'histoire de la vengeance, on n'y croit pas une seconde. Il y a deux twists, on ne dira pas.
On
les voit venir, mais avec des gros sabots. Et alors après, je pense
c'est ça qui est intéressant, c'est ce que je dis. C'est pour ça que la trame est simple. C'est justement parce que la trame n'est pas la partie la plus importante. Ce qui intéresse Robert Eggers dans son cinéma, c'est de développer des univers. C'est ce qu'il faisait sur The Witch, c'est ce qu'il faisait sur The Lighthouse. Et là, c'est ce qu'il fait aussi.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Le truc, c'est qu'on est loin d'un esprit revanchard à la Rocky, à la Braveheart.
Parce que c'est pas le but.
Oui, mais si c'est l'histoire d'une revanche, on n'est pas emporté. J'aurais aimé être un peu plus emporté. Et à vrai dire, tu sais, je crois...
On s'emporte.
Je crois que je sais pourquoi je n'ai pas été assez emporté, parce que dans le même registre, il y a un film qui m'a tellement emporté loin qui s'appelle Valhalla Rising par Nicolas Winding Refn, indéniablement, ce film-là ne lui arrive pas à la cheville. Mais ça reste un film très, 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 très bien. Attention. Voilà, il ne faut juste pas avoir vu Valhalla Rising.
On écoute vos réactions. Vos réactions.
C'était une claque visuelle et même narrative, bluffant. De la psychologie, de l'émotion, vraiment intense. Alexandre Skarsgård, l'acteur principal, ça fait du bien de le voir purement bestial. Là, c'est une bête sanguinaire.
Très épique, très sanglant aussi.
C'est très bien joué. Björk est exceptionnel et l'univers scandinave est exceptionnel.
On a l'impression qu'on va voir un film mille fois déjà vu, classique. Et en fait, chaque scène déconstruit ce qu'on s'attend à voir. Vraiment, c'est brillant. Ça sert à ça le cinéma et notamment les salles de Cinoche.
Alexander Skarsgård, si ce nom comme ça ne vous dit rien, vous l'avez vu dans la série Big Little Lies ou encore dans la série True Blood.
Oui, génial, il fait partie de toute la lignée des Skarsgård avec son père qui était Bill Skarsgård et puis son frère qui jouait le clown de ça.
On n'a pas parlé de Claes Banks aussi qui est super.
Oui,
qui jouait le héros de The Square notamment.
Bon, là on passe dans un tout autre registre.
Tout à fait.
Plus gai, plus léger, ça s'appelle Les Folies Fermières. C'est une histoire vraie, improbable, qui se passe à la campagne où un cabaret ouvre dans une ferme.
Alors, plus gai, plus léger, je suis pas sûr.
Ouais.
Peut-être pas dans le fond, mais en tout cas, visuellement, c'est.
Ouais, mais en fait, justement, c'est ça qui est intéressant avec Les Folies Fermières.
C'est vrai, on va en parler dans quelques instants. Juste un mot, donc le fermier c'est Alban Ivanov et il a eu donc cette idée folle d'ouvrir un cabaret dans une ferme pour sauver sa femme après avoir rencontré Bonnie, une artiste du spectacle qui est jouée par la magnifique Sabrina Ouazani.
Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois.
4 2.
Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal est pas mort.
Avec vous, je peux y arriver.
Alors que les choses soient bien claires. 1. Je ne participe pas aux travaux de la ferme. 2. L'artistique, c'est moi. Et 3. Je ne couche pas.
Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici.
Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre.
Ah, faut peut-être se demander pourquoi.
Non, mais c'est intéressant, Les Folies Fermières, pour le coup. Alors, ça ne m'intéresse pas en termes de réa, ça ne m'intéresse pas en termes de jeu d'acteur. Tout ça ne m'intéresse pas du tout dans le film. Mais j'ai été surpris, en fait, parce que derrière la jolie comédie, c'est quand même un film qui vient aborder le désespoir des paysans français, qui aborde frontalement dans un film grand public le fait qu'il y a des paysans qui se suicident tous les ans parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est vachement plus profond sur ce que ça peut raconter. En fait, je trouve ça important. Je trouve le film plus important que bien réussi en termes de réalisation et de cinéma.
Il faut rappeler que Jean-Pierre Améris avait notamment fait des émotifs anonymes avec Paul Vord et Isabelle Carré. Non seulement c'est un être humain extra, c'est sans doute l'un des réalisateurs les plus sympathiques que j'ai eu l'occasion de voir, avec lequel j'ai pu discuter.
Franck Vallière connaît des gens.
Important. C'est quelqu'un qui vient du bas peuple, enfin qui n'est pas bien né ou qui n'est pas issu de ce sérail-là et qui n'a de cesse de développer des choses extrêmement populaires sans être populiste concernant non pas des minorités mais justement la majorité invisible, pas celle qui vit dans des appartements de 200 mètres carrés. Les gens d'en bas, il y a une personne handicapée dans ce film. Il y a des gens qui sont en désœuvrement social.
Il y a une personne transformée, il y a une personne qui a commencé très bas comme escorte et qui fait d'autres choses aujourd'hui. C'est passionnant, en fait, justement, le prisme de la société française qu'il aborde.
Voilà, et c'est des gens qu'on ne voit quasiment jamais au cinéma.
Voilà, donc Les Folies Fermières, c'est à découvrir aussi ce week-end au cinéma. Et puis Nitram, un thriller psychologique assez dur, dérangeant, qui avait été présenté au Festival de Cannes en 2021, avec l'acteur principal Caleb Landry-Jones, qui a reçu le prix d'interprétation masculine. C'est une histoire vraie, celle de l'itinéraire tragique d'un jeune homme dérangé et incompris, devenu un tueur de masse en Australie. Rapidement,
je dirais que c'est un film malhonnête, pour le coup. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse parce qu'il a une réalisation de téléfilm Sundance, comme on en a vu 100. Kelly Blandrin Jones se joue extrêmement bien à l'intérieur. Le seul truc qui m'embête, c'est que moi, quand je l'ai vu à Cannes, là, tu le disais dans le synopsis, je savais pas que c'était un tueur de masse. Et donc, pendant 1h20, je vois un film qui essaye de me faire ressentir de la sympathie pour un personnage en mode regardez comme il est gentil, regardez comme il est sympa, pour ensuite aller le voir massacrer des gens. Donc, ça peut désarçonner. Des gens peuvent rester en dehors en disant, j'ai pas envie de voir ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal fait, mais je peux pas m'empêcher de garder en tête que même un an après, je trouve toujours le film assez malhonnête, quoi.
On écoute vos réactions.
C'est dur comme film, mais très bien filmé, très bien joué. Et on n'imagine pas que ça va aller jusqu'à ce drame à la fin.
Voilà, c'est une vraie performance d'acteur. C'est assez incroyable. Je trouve que c'est plutôt bien rythmé. C'est très très intéressant et j'ai beaucoup aimé.
C'est un film très fort où vraiment on se met à la place d'une personne qui vit de manière complètement hors norme. Et finalement, on a beaucoup d'empathie pour ce personnage. Je trouvais que c'est un très beau film.
À voir également ce week-end au cinéma un magnifique documentaire tourné pour vivre sur un réalisateur que l'on adore ici et qu'on a reçu il y a quelques semaines, c'est Claude Lelouch. Pendant 7 ans, Philippe Azoulay, réalisateur, lui aussi l'a suivi dans ses bureaux, sur ses plateaux. Il a filmé sa passion, son amour du cinéma pendant ses tournages, les réunions. On suit toutes ses créations. On le voit également en interaction avec son plus grand fan, Quentin Tarantino, avec des acteurs comme Jean Dujardin. C'est un très joli moment de vie à découvrir au cinéma. Voilà, c'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux, mais on se retrouve la semaine prochaine depuis le Festival de Cannes. Je vous rappelle que mon invité aujourd'hui était artiste pour parler de la comédie. J'adore ce que vous faites, qui sortira mercredi prochain au cinéma. Et tout de suite, vous retrouvez William Lémergie. Moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, on espère, sous le soleil de Cannes.
Oui, bon week-end.
Bonne semaine à vous, à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, clap, Laurie Choléva.